France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
6h21, quand la science permet d'améliorer les résultats des sportifs. Alors qu'on est à moins de 5 mois des Jeux Olympiques, une nouvelle étude franco-britannique vient montrer l'intérêt des mathématiques pour optimiser les performances de coureurs. Bonjour Amandine Aftalion.
Bonjour.
Vous êtes co-autrice de cette étude, mathématicienne, directrice de recherche au CNRS. Les maths, c'est pas la première science à laquelle on pense pour aider des sportifs spontanément. Voilà, on pense plutôt à la médecine, voire à la physique. Les équations, ça aide aussi ?
Oui, tout à fait. En fait, l'intérêt des mathématiques ici, c'est évidemment de s'appuyer sur la physique, de s'appuyer sur la conservation de l'énergie, de s'appuyer sur la psychologie, pour écrire des équations, faire des simulations. Et derrière, en fait, l'intérêt de notre étude, c'est d'aller calculer des valeurs, des paramètres auxquels on n'a pas accès par des mesures.
Donc, vous avez récupéré tout plein de données, vous avez compilé tout ça dans un modèle, c'est ça ?
Voilà, donc on a récupéré des données sur les derniers championnats d'Europe d'athlétisme. Ce sont des données de vitesse 10 fois par seconde, donc toutes les 100 millisecondes. Et avec ces données de vitesse, on met un modèle, c'est-à-dire on met en place les lois de physique, puisque tout s'appuie sur la physique. Donc on s'appuie sur les lois de Newton pour décrire le mouvement, sur la conservation de l'énergie, à la fois l'énergie qui vient de l'oxygène et l'énergie qui vient de l'alimentation. Et sur le fait que l'athlète a un cerveau qui contrôle le mouvement et donc il va pas varier sa force avec un bouton on-off. Il y a un effort à fournir et cet effort, ça lui coûte. Donc, il faut chercher à minimiser à la fois son effort, son énergie et puis pour qu'il gagne le temps final.
Mais ça veut dire que
Oui.
Allez-y, finissez, pardon.
Non, c'est donc minimiser tout ça, c'est quelque chose qu'on peut écrire avec un langage mathématique et calculer.
Et ça veut dire que si vous avez les données de tous les participants, si vous avez toutes ces données au début d'une course, vous pouvez presque prédire qui va gagner ?
Non, pour l'instant, dans l'état actuel du modèle, il faut qu'on identifie les paramètres des coureurs. Donc on a besoin de courses qu'ils ont faites. Et ensuite de savoir, donc d'avoir leur vitesse pour aller identifier les paramètres. Ensuite, l'intérêt du modèle, on n'en est pas encore à prédire qui va gagner parce que dans une course, après, il y a des interactions entre les coureurs en fonction de qui part comment. Mais ce qu'on peut prédire, c'est comment, si je travaille un de mes paramètres, si je travaille ma VO2, c'est-à-dire ma capacité à transformer l'oxygène en énergie, si je travaille mon énergie anaérobie, si je travaille ma musculature, comment va varier ma stratégie de course ? C'est plutôt à ce niveau-là qu'on est prédictif.
Alors, optimiser ses performances sportives grâce aux maths, ça se fait, là on parle de la course, mais on sait que ça se fait aussi beaucoup dans le tennis avec les probabilités qui sont très utilisées dans ce sport pour mieux connaître les forces et les faiblesses des adversaires. Est-ce que ça marche pour tous les sports ?
Alors, je voudrais juste répondre d'abord à votre question sur les probabilités. Nous, ce qu'on fait, c'est un modèle avec des équations. Donc, on est déterministe, on est prédictif, on n'est pas sur des probabilités, on n'est pas sur des big data. On utilise les data pour identifier des valeurs qu'on ne sait pas mesurer. Et après, si vous voulez, c'est très important de savoir comment, pendant la course, a varié la VO2 ou l'énergie anaérobie. Mais on n'est pas du tout probabiliste, c'est-à-dire que on est complètement sûr de ce qu'on calcule et de ce qu'on.
On a donné juste un exemple de la façon, d'une autre façon dont les maths sont utilisées par les sportifs. Oui. Donc les maths peuvent être utiles à tout type de sport ?
A priori, à tout type de sport, la seule chose, c'est il faut partir de données GPS extrêmement précises, ce qui n'est pas le cas forcément sur tous les sports aujourd'hui.
Et est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut équiper les sportifs de capteurs ?
Voilà, donc là, les données qu'on a eues pour avoir 10 données de vitesse par seconde, parce que je ne sais pas si vous imaginez, en une seconde, avoir 10 données de vitesse, il faut que la vitesse soit extrêmement précise et que le capteur soit précis. Donc, c'était un championnat où les coureurs avaient des capteurs sur eux et il y a une quinzaine d'antennes sur le stade qui récupèrent les informations des capteurs.
Mais comment on fait pour mettre des capteurs, par exemple, sur des nageurs ou sur des boxeurs ? C'est pas facile, là ?
Non, justement, j'allais y venir. La difficulté, c'est que ces données transitent beaucoup moins bien en intérieur dès qu'on a un toit. Donc, en général, les compétitions de piscine, de boxe et en intérieur. Et même sur les stades indoor, les données qu'on a sont moins précises qu'en extérieur. Donc c'est pour ça que je vous disais, on est très dépendant de la qualité des données GPS. Il vous faut des choses qui sont au centimètre près, donc beaucoup plus précises que votre montre ou votre capteur avec lequel vous allez courir le dimanche.
Amandine Aftalion, le sport, hein, c'est votre domaine d'étude, mais vous n'êtes pas nombreux, hein, parmi les mathématiciens à faire ça. J'ai retrouvé une tribune que vous avez publiée en 2015. Vous regrettiez d'ailleurs que ces deux mondes du sport et de la science travaillent très peu ensemble. Est-ce que ça se fait davantage aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Ça se fait davantage. Mais vous voyez, moi, j'ai travaillé sur ces sujets-là avec un physiologiste anglais parce que d'une certaine manière, en Angleterre, ils sont formés à des mathématiques qui sont plus appliquées et ont plus facilement... les gens qui font du travail dans le sport ont plus facilement une approche des mathématiques qu'en France où ça reste très séparé. Soit on apprend des maths, soit on apprend les sciences du sport. Mais il y a peu de gens qui apprennent les deux à la fois.
Et pourquoi ? Parce qu'on regarde ça, c'est mal vu d'un côté comme de l'autre ?
Non, parce qu'on a des formations qui sont faites comme ça. Je dirais, les gens qui font des études scientifiques partant vers les sciences n'y font pas de sport. Et dans les sciences du sport, j'en discutais encore avant-hier avec la vice-présidente de l'Université Paris-Saclay. Elle me disait, c'est incroyable, dans notre licence TAPS, ils ne font pas de maths, ils n'en font presque pas, donc il faudrait changer ça. Elle me disait, venez à Paris-Saclay et changez ça avec nous.
Mais même avec les JO de Paris là, qui arrivent de ces dernières années, vous n'avez pas été sollicité ou ça n'a pas été davantage développé, puisque par exemple à Londres, pour les JO de 2012, les Britanniques avaient créé une agence dédiée à l'étude de la performance sportive. Il n'y a pas eu des choses comme ça en France ?
Il y a eu des choses comme ça, plus avec des physiciens. Il y a eu une agence qui a été créée avec des physiciens. Il n'y a pas, ma connaissance, de mathématiciens qui sont impliqués dans la préparation des JO 2024.
Il y a encore du travail, donc merci.
Alors, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, je crois qu'il vous faut un autre invité pour demain.
Merci Amandine Aftalion. Et pour prolonger la discussion, je renvoie nos auditeurs à votre livre « Pourquoi est-on penché dans les virages ?» J'adore le titre de votre livre. C'est « Le sport expliqué par les sciences en 40 questions », un livre de vulgarisation scientifique édité par le CNRS. On apprend par exemple pourquoi les balles de golf ont des alvéoles.